Bonjour à tous. Je me disais que c'était vraiment étrange, parce que dans notre agenda, avec la famille, nous avons noté rencontre de l'église de Genève, donc à ce jour. Et puis, c'est vraiment étrange de se retrouver derrière une caméra, et avec des notes, tout est virtuel. Alors on vous rencontre, vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas, on va fonctionner virtuellement. Je me suis dit, t'imaginer quand on va faire le compte-rendu de cette rencontre dans l'annale de l'EIG, première rencontre de Franck Segon par caméra interposée. C'est une drôle de rencontre et peut-être que dans 100 ans, quand ils vont relire ces comptes-rendus, ils vont trouver ça très troublant. En tout cas, au fur et à mesure que la semaine a avancé, j'ai corrigé à chaque fois mon manuscrit parce que au début, c'était bon, voilà, faut se laver les mains correctement, puis faut éviter les embrassades. Et puis, plus on a avancé dans la semaine, plus c'est devenu compliqué. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit ce matin, tiens, on va regarder ensemble qu'est-ce qui préoccupe les gens en ce moment. Je crois que là, le sujet était tout trouvé. Hein, le Covid-19, vous connaissez. Donc c'est le coronavirus qui a frappé et qui frappe de plus en plus. Et donc, il y a plusieurs manières de réagir devant le coronavirus. Et donc, j'ai observé un petit peu dans les journaux, dans les médias, comment on pouvait réagir. Alors, peut-être que tu peux mettre une image que j'avais choisie. Mais en fait, voilà, vous voyez cette image, je ne sais pas si elle apparaît sur vos écrans. En tout cas, alors c'est celle d'après. On peut paniquer devant ce phénomène, on peut être angoissé en s'attendant à la fin du monde, en priant que Dieu nous épargne toutes les souffrances qui vont être liées à cette maladie. On peut aussi se cloîtrer, hein, s'isoler, alors ça on nous l'encourage même, mais en fait je pense plus à un isolement personnel, individuel, et on peut devenir finalement parano. Est-ce que le virus est dans l'air? Est-ce qu'il est sur les touches de pied? Est-ce qu'il est sur la vitre de mon smartphone? Et vous voyez, on peut très très rapidement paniquer. Donc ça, c'est une deuxième attitude. On peut aussi relativiser. J'en ai connu cette semaine qui relativisait vraiment la chose. Ils continuent à s'embrasser. On a vu même des images à la télé. Ce qui a conduit le gouvernement à être beaucoup plus rigide, puisque les gens faisaient comme si de rien n'était. Ils s'embrassaient, partageaient toutes sortes de choses. Et donc, on peut relativiser, hein. Il suffit de regarder les statistiques de la grippe espagnole en 1918, hein, sur une période d'une année quand même, mais sur un an, il y a eu plus de 100 millions de morts, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas forcément une manière de gérer. Il y en a d'autres qui ont géré ça d'une manière un petit peu humoristique, je dirais. Il y a un commerçant belge, vous allez voir un petit peu cette image. Un commerçant belge a fait cette annonce pour faire la promotion de sa bière. Il a dit, 2 coronas achetés égale une mort subite offerte. Alors, c'est un humour un peu décalé, c'est belge, certes, mais la manière de plaisanter, des fois quand on plaisante, c'est une manière de cacher notre angoisse. Et j'ai remarqué que souvent les gens, quand ils veulent cacher leur angoisse, ils vont faire des blagues, et parfois un peu décalées, et c'est pas toujours de bon goût. J'ai même trouvé une annonce, là, elle était assez drôle. Je ne vous dis pas quelle église qu'il a faite, vous allez deviner, j'imagine. Mais ils mettent, suite à l'épidémie du coronavirus, la soirée guérison miraculeuse sera annulée. J'ai trouvé ça très drôle, parce que je me suis dit, tiens, on dirait qu'ils manquent deux fois dans leur théologie, là. Mais bon, bref, il y a parfois des réunions annulées qui dénoncent un peu la supercherie. Certains articles dénoncent la surmédiatisation de ce virus, relativisent l'ampleur de l'épidémie. En fait, cette situation, elle nous renvoie à notre fragilité humaine, à notre manque de contrôle sur la vie, à nos limites, à la vanité de la vie et puis à l'éphémérité de la vie. Tout cela est troublant et même pour nous, pour les enfants de Dieu, ça peut apporter du trouble. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un texte où on voit les disciples de Jésus qui sont troublés. Et donc, on va lire ce texte, ça se situe, vous pouvez prendre vos bibles si vous êtes à la maison, vos tablettes comme moi. Je vous invite à prendre Jean chapitre 14, et on va lire les 7 premiers versets. vous allez voir que c'est vraiment une situation intéressante parce que Jésus va répondre au trouble de ses disciples. Et il commence cette phrase ainsi, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Que votre cœur ne se trouble pas. Autrement dit, ne vous inquiétez pas. Que votre inquiétude n'est pas une angoisse quelque part. Et il poursuit, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Et Thomas lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Fin de la lecture du texte biblique. J'ai relevé ici deux grandes idées et après avec des sous-points. Et la première chose que j'aimerais relever, ce sont les causes du trouble. Là, vous devriez avoir quelque chose qui s'affiche sur votre écran. Les causes du trouble des disciples. On pourrait paraphraser cette phrase-là, que votre cœur ne se trouble pas, par ne vous faites pas de mauvais sang, ne fabriquez pas de la bile inutilement, ne stressez pas, hein, don't worry, be happy, pour les anglophones. Cette affirmation nous amène au motif de l'inquiétude des apôtres. Pour quelle raison était-il stressé, troublé? Et donc je me suis dit, finalement, la meilleure manière de regarder le texte, c'est pas de regarder après, mais de regarder un petit peu avant. Et donc avant chapitre 14, il y a tout simplement le chapitre 13. Et donc si on prend le contexte immédiat, c'est la première raison du trouble, la première cause, c'est qu'il y a une situation inattendue. Jésus va laver les pieds de ses disciples. Alors c'est un texte qui est assez familier, parce que moi je viens d'une union d'église où on pratique le lavement des pieds. Alors c'est pas quotidien, c'est même pas hebdomadaire, c'est de temps en temps dans l'année. La première fois que moi j'ai pratiqué ce geste, ou que mon épouse a pratiqué ce geste, c'est assez troublant. Mais nous, on n'est pas dans le contexte de Jésus. Mais même dans le contexte de Jésus, où quand même la pratique du lavement des pieds, c'était généralement soi-même, la plupart du temps, on se lavait soi-même les pieds en arrivant de l'extérieur. Mais il se trouve que quand on avait un peu de moyens, il y avait aussi dans les maisons des serviteurs ou des esclaves qui lavaient les pieds des autres qui venaient. Ou bien c'était carrément le chef de maison qui lavait les pieds de ses hôtes. Ici, dans ce texte, on voit que l'apôtre Pierre, qui est celui qui a la plus grande bouche, il va oser l'ouvrir, mettre tout le monde dans cette situation. Mais c'est Pierre, qui va prendre la parole et qui va s'exprimer. Il va exprimer son étonnement à Jésus. Regardez ce qu'il dit. On prend Jean chapitre 13, des versets 8 à 11. Mais Pierre lui réplique, « Toi, me laver les pieds à moi ? Mais jamais de la vie !» Jésus lui répond, « Mais si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, mais non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Je lui dis, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Vous avez vu ici la réaction de l'apôtre Pierre? Il trouvait inconcevable qu'un maître s'abaisse à une telle besogne. Parce que, comme je l'ai dit, cette tâche, elle était réservée soit aux esclaves, mais certainement au maître. Et donc, il considérait que ce geste n'était pas digne du maître, que c'était déplacé, que c'était anormal. Et en fait, c'était déstabilisant, troublant, pas seulement pour l'apôtre Pierre, mais pour les disciples. Mais si on regarde bien, dans ce texte, bien sûr qu'il y a la notion d'humilité, mais il y a une notion de service, mais lavement des pieds, si vous prenez les commentateurs, ils disent tous là que ça symbolise avant tout le pardon, la purification des péchés quotidiens. Et ça, c'est inévitable dans un monde déchu. La première des choses, quand on a été baigné, hein, c'est ce qui se passait pour eux, quand c'était juste avant la Pâque, ils avaient eu le bain purificateur. Première des choses que vous faites quand vous sortez de votre bain, eh bien, vous mettez le pied par terre et vous allez marcher et fouler le sol. Et vous allez attraper les poussières. Et c'est un petit peu le symbole ici du lavement des pieds. Ce n'est pas un symbole purificateur de toute notre âme, de l'ensemble de notre vie. Ça n'a rien à voir avec le salut parce que Jésus nous dit « Vous êtes déjà purs, mais non pas tous ». Donc il ne parlait pas du tout de la sanctification, de la justification aussi, mais il parlait de la sanctification, du lavage des péchés quotidiens, du lavement, du lavage, tout dépend comment on prend le terme. Mais en fait, ses disciples n'avaient pas compris, ils ne comprenaient pas ce geste. Il a fallu attention pour que les disciples saisissent la portée spirituelle de ce que Jésus était en train de faire. En attendant, les disciples, ils étaient intrigués, ils étaient dérangés, déstabilisés, parce que Jésus, il venait de faire quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude, et c'était inconcevable. Donc ça, c'est la première demande. La deuxième, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. La trahison de Judas. Il y a l'un d'eux, dans ce groupe-là, qui va les trahir. Il vient de leur laver les pieds, et tout de suite après, il annonce, il y a un d'entre eux qui va les trahir. Et là, on peut imaginer, en fait, ce que ressentent les apôtres. Ils vont de surprise en surprise. Ils annoncent que l'un d'entre eux va le trahir, et à mon avis, ça doit être assez troublant. Imaginez un dimanche matin, alors ce matin c'est un peu particulier parce qu'on est loin les uns des autres, mais imaginons que moi, en tant que prédicateur, je regarde l'assemblée et que je vous dise, eh bien écoutez, dans cette salle-là, il y aura une personne qui va être les autres. Je ne dis pas qui c'est. Eh bien, ça causerait beaucoup de troubles. Ça causerait beaucoup de troubles. Et dans une telle circonstance, en plus du lavement des pieds, vous imaginez, ça amenait une confusion supplémentaire. Les disciples, en fait, ne comprenaient rien. Ils voyaient qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer, mais ils ne captaient pas. En fait. On le voit dans l'interrogation au verset 28 du chapitre 13. Il dit... Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Et vous voyez, les apôtres étaient à mille lieues de savoir et de penser que Judas allait trahir Jésus. Ce n'était pas du tout dans leur pensée. Et donc, mon texte est avancé du coup. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise ici. Parce qu'il allait y avoir un autre événement qui allait ajouter à ce trouble. Une séparation imminente. Judas était à peine sorti de la pièce que Jésus va annoncer son propre départ. Alors il va en parler en des termes un peu énigmatiques. Parce qu'il va déclarer qu'il sera glorifié et qu'il va les quitter. Il va leur recommander de s'aimer les uns les autres et il va créer leur futur témoignage. Et on voit les disciples là qui sont perturbés. Et comme Pierre, il supporte plus de discours, il veut des réponses claires. Jésus, tu n'étais pas assez clair, explique-moi. Alors il lui pose cette question. Mais Seigneur, où vas-tu? Et Jésus répond calmement, mais toujours de manière assez mystérieuse. Tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu me suivras plus tard. Alors, craignant que Jésus doute de son attachement pour Pierre, il s'empresse d'ajouter, « Seigneur, mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Mais moi, je donnerai ma vie pour toi !» Et là, Jésus lui répond de manière assez ironique, « Tu donneras ta vie pour moi? Mais en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Ça doit être une douche froide à ce moment-là. Comment le plus passionné, le plus téméraire des apôtres allait-il sombrer si rapidement au point de renier Jésus? Imaginez ces trois situations. On a une situation inattendue, Jésus lave les pieds des disciples. On a l'annonce d'une mauvaise nouvelle, quelqu'un va le trahir. Et on a un deuil qui est là, tout proche. C'est assez mystérieux, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Trois facteurs de stress, trois facteurs de trouble, où Jésus va essayer d'amener une réponse. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les troubles, on va pouvoir explorer les solutions, les remèdes que Jésus va proposer. Et j'ai intitulé ce deuxième point, les remèdes aux troubles. Premier point, placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu. Regardez le texte. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus leur recommande de placer leur confiance en Dieu et en lui. Alors ça peut paraître assez prétentieux, surtout si Jésus les donne. Mais c'est là où on voit, et dans l'évangile de Jean, c'est truffé de ce genre de paroles où Jésus montre qu'il est l'égal de Dieu. Il se dit être la lumière. Alors on sait très bien que la lumière, ça peut être que Dieu. Il dit, il est le pain de vie, il affirme énormément de choses dans l'évangile de Jean pour montrer qu'il n'est pas un homme simplement. Il est un homme, mais qui incarne la divinité. Et donc tout ce que Jésus va dire, sa parole, c'est la vérité. C'est le verbe incarné. Lorsqu'on s'appuie sur les paroles de Dieu, ou donc du coup sur les paroles de Jésus, eh bien on va s'appuyer sur quelque chose de solide, sur quelque chose de vrai, sur quelque chose de libérateur. Parce qu'on sait, et parce que la Bible dit, que sa parole est fiable. Elle est parfaitement inspirée, 100% inspirée, mot pour mot, et elle est parfaite. En s'appuyant avec foi sur les promesses de Dieu, eh bien, on ne sera jamais déçu. Au contraire, cette parole-là va nous rassurer, elle va nous fortifier, elle va nous édifier, elle va nourrir notre cœur. Vous savez que Jésus a donné ce conseil dans un moment de trouble, mais on voit que d'autres apôtres, et là j'en cite qu'un, mais bien sûr il y a l'apôtre Pierre et d'autres écrits du Nouveau Testament, mais je vais citer juste ici l'apôtre Paul, parce qu'on connaît mieux la vie de l'apôtre Paul, parce qu'il y a plus d'écrits, et on sait ce qu'il a subi. On sait par exemple que l'apôtre Paul a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été dans la maladie, la persécution. À un moment donné, il a été dans un naufrage sur un bateau qui était loin d'être un bateau de croisière. Il a séjourné en prison. Il a eu un emploi surchargé, étant obligé d'enseigner tard le soir, très tard, jusqu'au matin. Mais... Et donc, on voit cet apôtre Paul qui va donner ses conseils. Il va donner des conseils au peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul n'avait pas de GPS, il n'avait pas de défibrillateur, il n'avait pas Google, il n'avait pas de smartphone, de tablette, il n'avait pas BFM, il n'était pas au courant de toutes les données que nous avons aussi dans notre monde aujourd'hui. Il n'avait pas d'anxiolytique, il n'avait pas d'efferalgan. Vous voyez, alors il utilisait probablement les médicaments de l'époque, mais on a un luxe par rapport à l'apôtre Paul. Donc regardons ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. C'est des chrétiens qui étaient dans une église à Philippe, en Grèce. Et donc, regardez le conseil qu'il leur donne au chapitre 4. Les Philippiens qui étaient probablement troublés, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Vous voyez le conseil ici? C'est exactement le même que Jésus. Je trouve que c'est rassurant. Ici, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais ça, c'est facile à dire quelque part. La plupart des journaux vont vous dire, ou dans « ne paniquez pas ». Ben oui, mais le fait de dire « ne paniquez pas », ça n'amène absolument aucune solution. Ici, Jésus nous dit comment faire. Et l'apôtre Paul, de même, il nous dit de placer notre confiance en lui, en Jésus. Et ici, il dit « par toutes sortes de prières ». La prière est un acte de foi. C'est qu'on ne voit pas qui est là, qui est bien présent, et on doit placer notre confiance dans quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est un acte de foi. C'est quand on prie, c'est une manifestation de la foi dans le Dieu invisible. Eh bien, Jésus dit la même chose. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la base de tout croyant. Mais bon, vous êtes humain, vous êtes comme moi, et je pense que vous allez avoir une image qui va apparaître. J'aime beaucoup cette illustration. Parfois, on a un souci qui est là, une inquiétude, on la remet à Dieu. En tant que croyant, c'est normal, c'est naturel. Et donc, Oderzey a fait un petit dessin, je trouvais ça intéressant. Et vous voyez, on voit ce bonhomme avec son baluchon qui vient et qui porte un lourd fardeau. Hein. Donc ça, c'est nos préoccupations, c'est les troubles, c'est ce qui nous inquiète. Il vient à la croix en ensuite tu peux montrer celle juste après, il dépose son gros fardeau au pied de la croix, et là, il remercie. Hein, donc il dépose son fardeau, je pense que c'est celui d'après. Ouais, j'ai un décalage, je pense, avec vous. Et donc là, il faut montrer la slide d'après, et regarder cette troisième image que je trouve quand même assez intéressante, qui est caractéristique de l'être humain. C'est que on dit, voilà, j'ai déposé ce fardeau au pied de la croix, puis finalement, on repart avec le même sac, en autre dans la direction de tous les jours, et on repart finalement au travail, on repart dans notre famille, ou même à l'église, avec les frères et sœurs, avec le même fardeau. Et finalement, on ne l'a pas déposé. Alors je me dis, ok, c'est peut-être un peu caricatural, c'est peut-être dur, mais c'est une réalité. Même Jésus, finalement, quand il était dans le jardin de Gethsémané, par trois fois, il a dû remettre son inquiétude à Dieu. Hein? Trois fois, il a dit à Dieu, s'il te plaît, ôte devant moi cette coupe. Et puis Dieu, restant silencieux, le Père restant silencieux, il a redonné une deuxième fois, une troisième fois, et là, c'était fait. Donc je me dis, finalement, si Jésus lui-même a été obligé par trois fois de remettre son inquiétude à Dieu, je me dis que finalement, pour nous, si ça revient, c'est que c'est presque normal. Mais du coup, on doit gérer ça. On doit apprendre à faire confiance à Dieu, apprendre à lui remettre. Quand ça revient, on remet encore au pied du Seigneur. Et puis si on repart encore avec un bout de notre sac, eh ben, on est appelé à le ramener jusqu'au moment où on connaît cette paix intérieure, la paix de l'âme, parce qu'on sait qu'on a déposé, qu'on est entre les mains d'un Dieu souverain et qu'on ne craint plus rien. Et c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pas... Alors c'est une paix subjective quelque part, mais c'est parce qu'on sait aussi que nous sommes en paix avec Dieu, que Dieu va prendre soin de nous. Et là, je cite, je crois que c'est 1 Pierre 4, 7, qui dit « Déposez sur moi tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Déposez tous vos soucis sur moi, car moi-même je prends soin de vous. » C'est 1 4, 7 ou 5, 7 ou 7. J'ai une petite hésitation ici. Bref, l'objectif pour enlever cette inquiétude, la première, c'est de croire en Dieu, de placer notre confiance dans un Dieu pleinement souverain. Moi, ce que j'aime quand je lis les épîtres, par exemple, de l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, l'apôtre Paul ne disait jamais « je suis le prisonnier du gouverneur ou le prisonnier d'un soldat romain ». L'apôtre Paul dit « je suis le prisonnier de Christ ». Il était pleinement conscient de la souveraineté de Dieu et il savait que rien, absolument rien, n'échappe au contrôle de Dieu. Et donc, il nous encourage par cette attitude, le fait de dire « je suis le prisonnier de Christ », eh bien, ok, ça veut dire que j'ai pleinement confiance que si Dieu permet cette situation, il est 100% au contrôle. Donc, première manière de gérer ce trouble, c'est placer sa confiance. La deuxième, on les voit au verset 2 et au verset 3. « Il y a beaucoup dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Moi, je vois ce texte et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'on est dans une pièce sombre. Hein, c'est les ténèbres, quelque part. Et que Jésus, il va ouvrir un Velux. Vous imaginez, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais dans une pièce, vous voyez, vous êtes à tâtons, vous avez un peu peur, et puis hop, il y a quelqu'un qui ouvre une fenêtre, et boum, la lumière qui rentre. Et c'est exactement ce que fait Jésus. Et là, il ouvre le regard des disciples sur le ciel, sur leur destinée. Regardez pas simplement ici, dans vos ténèbres, mais il ouvre la fenêtre et dit « regardez là-haut, regardez à votre destinée. » En fait, les disciples apprennent que Jésus ne va pas pour les abandonner, se reposer ou parce qu'il ne les supporte plus, mais il s'en va pour leur préparer une place au ciel. En fait, Jésus, il avait fréquemment parlé de son départ, mais les idées préconçues des apôtres les empêchaient de saisir ce que Jésus leur disait. Jusqu'au moment où les choses qui avaient été annoncées se réalisent. Ils ont réalisé plein de choses après la croix, au moment de la résurrection. Lorsqu'on voit les Emmaüs qui discutent entre eux, qui viennent de Jérusalem, ils sont déçus, ils ne comprennent pas, Jésus était avec nous, c'était le Messie, mais ils avaient... dans leur tête, imaginez que Jésus devait aller instaurer un royaume dès maintenant, qu'il allait chasser les Romains et c'est pas ce qui s'est passé, et donc ils étaient complètement troublés. Et Jésus vient à leur côté, et il commence à leur expliquer tout ce qu'il concernait dans les Écritures, et à un moment donné, donc il trouvait ça tellement génial, il les invite, il rentre chez lui, ça lui donne à manger, et au moment de la prière, il réalise, en voyant les marques sur les mains de Jésus, il réalise que c'était le Christ. Et là, leurs yeux, boum, tombent, je trouve ça absolument génial. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que les disciples, souvent, n'ont absolument rien compris au moment où Jésus leur explique les choses, et ne l'ont compris qu'après. C'est dur d'oreille, un peu comme nous. En fait, ça, c'est notre incrédulité. Ça nous empêche de voir au-delà de nos petites circonstances. Et là, ce matin, Jésus, il est en train de nous dire, ok, les amis, arrêtez peut-être de regarder, de vous focaliser. Ça ne veut pas dire, je donnerai quelques consignes à la fin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'on regarde le problème ou qu'on fasse l'autruche en disant, non, voilà, Dieu nous protège, on est dans notre scaphandre, on fait absolument rien. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais là, c'est juste, Jésus est en train de nous dire, ok, regardez au-delà des circonstances. Ouvrez vos yeux. Je suis en train de vous donner une fenêtre là ce matin. Regardez le ciel. Regardez ce que Jésus est en train de préparer. Il dit qu'il est en train de préparer une place au ciel. Hein? Ici, il nous dit je vous ai préparé une place, une demeure quelque part. Donc, arrêtez quelque part de croire que votre demeure éternelle est ici-bas. En vous construisant vos petits châteaux, vos petits royaumes, qui finalement, si on était au top du top, ça dépasserait jamais le 5 étoiles. Eh bien, Jésus, il est en train de nous dire ici, moi, je vous prépare un royaume là-haut, une place, mais c'est du 7 étoiles. C'est parfait. Et ça fait 2000 ans qu'il est en train de la préparer. Donc, vous imaginez, quand nous, on fait des travaux, on s'y prépare, pendant quelques mois, on va faire des travaux et on trouve ça super. Mais Jésus, ça fait 2000 ans qu'il nous prépare une place. Je peux vous assurer que la place là-haut, elle est beaucoup plus importante et elle sera parfaite. On n'aura plus de soucis. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Pointer le regard. Je cite ici Don Carson, j'ai trouvé ça intéressant dans son commentaire sur l'évangile de Jean. Il dit, les premiers disciples reçurent pour but de vivre à jamais dans la maison du Père. Nous aussi. Mais un danger qu'ils ne connaissaient pas nous guette. Nous risquons de jouir tellement des bienfaits que Dieu nous a déjà accordés que nous perdons le goût des choses meilleures à venir. Nous cessons d'inquiéter que Jésus puisse nous quitter, non plus désormais pour monter sur la croix, mais pour nous rappeler notre dépendance. Pire encore, l'idée de l'éternité peut même ne plus nous réjouir. Nous oublions de crier avec les croyants de tous les temps, « Viens, Seigneur Jésus !» J'ai trouvé cette citation rafraîchissante. Et je me suis dit, mais ouais, il a raison. On pourrait se satisfaire de ce monde, et je me dis quelque part, le plus est en train de nous rappeler notre fragilité, est en train de nous rappeler que notre espérance, si elle est simplement basée sur cette vie ici-bas, eh bien, elle peut vite s'arrêter. Or, Jésus, là, il nous ouvre les cieux sur notre destinée, une destinée qui est durable, qui est éternelle. Et c'est là-dessus qu'il veut qu'on focalise nos yeux. Troisième remède au trouble, et c'est le dernier, versets 4 et 7, j'ai un et ça, connaître le chemin. Croire en Dieu, connaître notre destinée, et là maintenant, c'est connaître le chemin. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les amis, c'est fondamental de connaître notre destinée. Hein, on aime mettre la fin du parcours. Quand on fait notre parcours GPS, en général, on met l'adresse de la destination et c'est super important. Mais quand on a un GPS, on aime bien aussi savoir par où on passe. Sinon, c'est un peu compliqué. Eh bien, Jésus nous dit, ok, moi, je suis ce chemin compliqué. C'est moi, en fait. C'est moi le chemin. Et Thomas, il n'avait pas compris que Jésus allait rejoindre le Père Céleste. Comme les autres apôtres, son paradigme concernant le Messie empêchait de saisir cette vérité spirituelle. Vous ne pouvez pas imaginer que Jésus allait souffrir, mourir et ressusciter pour que lui-même aille à son tour au ciel. Et donc, patiemment, Jésus va lui rappeler l'itinéraire pour aller au ciel. Et il dit, moi, je suis le chemin. Je suis le chemin. Pas moi, Jésus. Je suis le chemin. Et donc, Jésus, il ne va pas donner de nouvelles règles à suivre. Il ne va pas donner de nouvelles doctrines. Il ne va pas nous donner un nouveau régime pour les juifs nouvellement croyants. Il ne va pas donner des exercices spirituels à faire, ou toutes sortes de choses, ou une nouvelle religion. Non, non. Jésus, il va juste préciser que c'est lui le chemin pour aller au ciel. C'est Jésus le chemin pour aller au ciel. Pour rejoindre le Père Céleste, on doit passer par le Fils. Il n'y a pas d'autre choix. Et comme Jésus savait que nous, à notre époque, on allait probablement tordre le sens de ses écrits, eh bien, il a précisé les choses en utilisant des articles définis. Hein? Certains auraient pu dire, mais Jésus est un chemin, et dans le contexte relativiste dans lequel nous vivons, c'est ce que vous entendez. Mais Jésus n'est qu'un chemin. C'est une possibilité. On peut y aller par Bouddha, par Mahomet, mais Jésus ici, il est exclusif. Il utilise des articles définis. Le chemin, la vérité et la vie. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus. La grammaire est là pour nous attester. Donc Jésus va enlever toute ambiguïté qui aurait pu nous laisser croire qu'il ne serait qu'un chemin pour parvenir au ciel. Donc, si Jésus dit qu'il est le chemin, c'est qu'il est le seul qui mène vraiment au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans Jésus. C'est pas inclusif ici, hein, c'est exclusif. C'est-à-dire que si c'est pas Jésus, c'est personne d'autre. C'est difficile. Personnellement, j'aimerais pouvoir dire aux gens, « Ah, mais tu sais, tout le monde peut aller au ciel. » Ce serait génial, finalement, qu'un maximum de gens qui ont une petite foi ou une foi dans quelque chose puissent aller au ciel. Mais la Bible ne dit pas ça. Et la Bible est exclusive à sur le salut. Je vous cite ici Actes chapitre 4, verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul accès à Dieu. La question pour vous, est-ce que vous connaissez ce chemin? Est-ce que vous connaissez ce chemin? Là, je vais conclure. On a vu que pour les solutionner, les remèdes aux troubles des disciples, il fallait faire confiance à Dieu. Il fallait connaître notre destinée et connaître le chemin qui nous mène à Dieu, connaître la personne de Jésus. En fait, c'est en passant par le Christ qu'on peut être sauvé. Ça, c'est trois éléments fondamentaux, non seulement pour le chrétien, mais pour celui qui découvre aussi la foi. Donc ce matin, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre foi. Si vous avez vraiment, vous êtes terrorisé devant le coronavirus ou d'autres choses, peut-être que vous êtes troublé même en tant que croyant. En tout cas, c'est le même remède pour tout le monde, c'est l'Évangile. L'Évangile. Finalement, la question la plus importante, c'est pas quel espoir. Quel espoir on peut avoir face au coronavirus, et puis là, on va faire appel aux scientifiques, parce que les scientifiques aujourd'hui sont incapables de répondre. Ils sont incapables d'endiguer radicalement cette épidémie, et on n'a pas encore de solution. Alors je prie pour qu'il y en ait, hein, mais ici, en ce moment, c'est pas la bonne question. C'est pas quel espoir on peut avoir face au coronavirus, parce que Jésus, il est venu nous avertir de l'existence d'un autre virus. Un virus qui est beaucoup plus meurtrier que le coronavirus. Parce que c'est un virus qui est répandu sur tous les hommes. Hein, le coronavirus, ça frappe un petit peu moins d'1% les enfants, pour le moment. Eh bien, l'autre virus que Jésus est venu guérir, pour lequel il a été l'antidote, celui-là, il frappe tout le monde. Les enfants, comme les personnes les plus âgés. Et c'est un virus qui nous conduit non seulement à une mort terrestre, mais à une mort éternelle. Une mort qui ne s'arrête pas quelque part. Donc la mort, ça veut dire la séparation. Donc une séparation éternelle avec Dieu. Si on regarde l'histoire de la Bible, en fait, c'est l'histoire d'un Dieu qui est descendu dans un monde infecté par ce virus. Et lui-même, le Christ, il a vécu parmi nous parmi les personnes malades. Il n'a pas porté de protection, une combinaison de protection chimique. Il a respiré le même air que nous, il a mangé la même nourriture que nous. Il est mort en étant isolé, exclu de son peuple, semblant loin, et bien sûr, il a été infecté et tué. Et il est mort dans l'isolement, et exclu de son peuple. Et visiblement, il a été même loin de son père pendant un temps. Tout cela, c'était pour qu'il puisse donner à notre monde malade un antidote au virus éternel. Écoutez ce que dit le Christ ici dans Jean 11. C'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et pose une question. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Et je vous pose la question ce matin. Croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus est le remède à cet antidote, à pas celle du coronavirus, un virus qui est mortel, si je pouvais dire. Cela dit, notre foi et notre espérance ne doivent pas nous conduire à négliger des conseils qui nous sont laissés par le gouvernement. Et en tant que croyant, on doit se soumettre aux autorités et suivre les conseils, les consignes imposées par le législateur. On doit être sage. Alors, je vous invite à ne pas vous lancer dans des comportements à risque et surtout aussi à ne pas encourager l'erreur. Parce que la foi, ce n'est pas la témérité. Hein. Recherchons ce qui est convenable, propice au bon témoignage et à la gloire de Dieu. Si vous avez des symptômes qui apparaissent, COVID-19, n'attendez pas pour vous faire dépister, et surtout ne cachez pas votre condition. Placez l'intérêt des autres avant le vôtre. C'est ainsi que vous vivrez en bon chrétien. Faites tout pour éviter la contamination. Ne cédez pas à la panique, bien sûr, hein, mais confiez-vous à ce que Dieu est au contrôle. Soumettez vos autorités et respectez les consignes d'hygiène. Il y a des choses basiques. Lavez-vous les mains régulièrement. Si vous avez des solutions hydroalcooliques, utilisez-les. Ne serrez pas la main de vos amis. Ne les embrassez pas. Les saluez. Lorsque vous éternuez, faites-le dans votre manche. Bref, je pourrais vous donner toutes sortes de conseils, mais il y a largement ce qu'il faut sur le web. Donc j'en ai terminé pour ce message ce matin. Et donc je vais prier, si vous le voulez bien. Ça fait bizarre de prier devant une caméra, mais... c'est faire. Je sais que Dieu est là, qui nous entend, qui nous écoute et qui va répondre à nos prières. Et donc, j'aimerais lui remettre ces instants et le restant de cette semaine. Seigneur Jésus, on veut te remercier déjà du fait que tu nous rappelles qui tu es et tu nous donnes des solutions face à nos troubles. Merci pour le Christ qui nous rappelle qu'on doit placer notre confiance en toi, en lui. On doit focaliser nos yeux sur notre destinée. Et qu'on doit connaître notre chemin. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle. Seigneur, notre destinée éternelle est tellement plus importante. Si on pouvait ce matin saisir les choses les plus importantes et que le coronavirus, finalement, ne serait qu'un élément pour nous rappeler qu'on est fragile et qu'on risque beaucoup plus en te faisant ta confiance. Merci pour ces écritures. Merci parce que ça m'a rassuré cette semaine de savoir que tu étais un Dieu qui contrôle, que tu es au contrôle et que toi-même tu es venu pour nous apporter cet antidote pour la vie éternelle. Aide ceux qui ne te connaissent pas encore à placer leur confiance en toi, à te confier leur vie, à te la remettre, pour que tu puisses vraiment aider les croyants aussi, à ceux qui seraient par cette situation, que tu puisses les aider à se confier à toi et à déposer totalement ce fardeau et pas à le reprendre, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous à faire ce que tu as fait, à remettre, quand cette inquiétude revient, te la remettre plusieurs fois si nécessaire, mais à lâcher prise, Seigneur, s'il te plaît. Je te prie tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais inviter mon ami Solofo, il va nous faire quelques petites, et après ce sera à toi, je crois. nécessaire. Alors, il y aura un cantique intermédiaire, c'est déjà lancé peut-être. Ça donne du temps. Je n'ai pas regardé.